Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chevaleresse, une chevalerie au féminin, tel est le titre de l'ouvrage qui a inspiré Franck Ferrand ce début de semaine. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. L'auteur de ce livre étonnant est Sophie Cassagne-Brouquet que nous avions retrouvée la fois dernière sur la place du Capitole à Toulouse. Eh bien je suis heureux qu'aujourd'hui elle ait pu nous rendre la politesse, c'est à elle de venir jusqu'à Paris. Et pour nous mettre dans l'ambiance de ces femmes chevaliers, à tout seigneur, tout honneur si j'ose dire, vous voyez qu'on a beaucoup de mots masculins pour désigner tout cela, nous allons parler de Jeanne d'Arc pour commencer.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Franck sur l'origine du genre adopté pour les noms de pays.
Nom de pays, le nom, écrivait Proust. Pour le moment, c'est le genre des chevaliers et chevaleresses qui nous intéresse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici ce qu'écrit Sophie Brouquet dans Chevaleresse, une chevalerie au féminin. Jeanne d'Arc est considérée à la fois comme une chef de guerre et une prophétesse. Dans le climat troublé des premières décennies du XVe siècle, il est vrai que le prophétisme féminin est largement répandu dans le royaume de France. Les voix de Jeanne lui annoncent sa victoire sur les Anglais et la libération du royaume. Quant à ses contemporains, ils considèrent, du moins ceux du parti Armagnac, que sa venue a été annoncée par de nombreuses prophéties. À ses accents bibliques et prophétiques se mêle bien entendu une note patriotique. Jeanne a été choisie par Dieu pour manifester la juste cause du royaume élu par Dieu. Jusqu'alors, je dirais, il n'y a pas tellement de surprises. Jeanne d'Arc est sans doute le personnage le plus connu, ou en tout cas l'un des plus connus, les plus emblématiques de l'histoire de France. On a toujours l'image de cette petite bergère, alors qu'elle-même a dit, pourtant lors du procès en condamnation, qu'elle n'avait jamais gardé les animaux du village. Mais enfin, peu importe, on dit qu'elle est bergère, on dit qu'elle est Lorraine, alors qu'en fait elle est des marches de Lorraine, puisque le village de Don Rémy, auquel elle appartient, faisait partie du duché de Bar, et c'est très important qu'elle soit baroise et non lorraine dans cette histoire. On a dit beaucoup de choses de Jeanne, ce qui est certain, c'est qu'elle était bien la fille de Jacques d'Arc, ou d'Arc, qui était le doyen de Don Rémy, et qu'elle a, c'est vrai, manifesté tôt un certain goût, sinon pour les armes, quoique nous allons y venir, en tout cas pour la lutte. Il faut se remettre dans le contexte de ces années 1427-1428, un royaume de France complètement déchiqueté, étiré, la Normandie est entièrement anglaise, toute la France du Nord appartient aux Anglos et aux Glo-Bourguignons, je dirais, puisque les Bourguignons prêtent main forte aux Anglais à ce moment-là, contre la couronne de France, une couronne de France qui est un peu grande, si je puis dire, pour le dauphin Charles, qui va devenir le roi Charles VII, qui ne dispose plus que de 6 ou 7 places fidèles au nord de la Loire, un peu à l'est. Tout ça va vraiment très mal. On peut presque dire que le royaume est fini. Et d'ailleurs, il est fortement question pour le dauphin ou pour le roi. Alors là, chaque historien a son point de vue sur la question. On va l'appeler Charles VII, c'est plus simple. Il est fortement question pour lui de se retirer dans le Dauphiné, voire même de passer en Espagne ou en Écosse, c'est-à-dire sur des territoires alliés. Ce roi de France compte, parmi les rares places restées fidèles, compte Vaucouleurs. Vaucouleurs, ça se trouve justement dans le Barrois, c'est à aujourd'hui 19 de nos kilomètres du village de Don Rémy, ça se trouve aujourd'hui dans le département de la Meuse, et c'est là que Jeanne va se manifester pour la première fois en tant que... Alors, est-ce qu'on peut dire chevaleresse? Peut-être que le terme est un peu excessif. Nous verrons tout à l'heure ce qu'en pense Sophie Brouquet. Mais en tout cas, c'est là qu'elle va manifester une autorité tout à fait extraordinaire et qui lui vient, dit-elle, du ciel. Alors, on dit que Jeanne entend des voix. Là encore, on est dans la légende puisqu'elle ne parle pas de voix. Elle dit qu'elle a des conseils et qu'elle les voit, ces conseils. Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'archange Michel, bien entendu. Ces voix ou ces conseils lui ont dit d'aller trouver le capitaine de Baudricourt, qui donc est le capitaine de cette place forte fidèle à la couronne de France, pour lui demander des gens afin de l'accompagner auprès du gentil dauphin du roi Charles VII, si vous voulez. Avec une mission assez chargée, hein, tout de même. Il s'agit de lever le siège d'Orléans, d'aller faire sacrer Charles à Reims, et puis pourquoi pas d'aller jusqu'à expulser les Anglais hors de France, en tout cas d'aller délivrer le duc d'Orléans, parce que c'est ça la véritable obsession, si je puis dire, de Jeanne. Le 13 mai 1428, elle va se rendre chez un parent qui se trouve à Buret. Buret, c'est à 3 de nos kilomètres de Vaucouleurs. Le parent en question s'appelle Durand Lazare. Il a 32 ans. En fait, c'est un cousin par alliance de Jeanne, mais elle l'appelle mon oncle, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle lui demande, elle demande à ce Durand de l'accompagner chez le capitaine Baudricourt. Donc les voilà à Vaucouleurs. Il faut savoir que ce capitaine de Baudricourt, alors ça nous entraînerait un peu loin, mais il faut savoir que c'est un fidèle de la maison d'Anjou. Le père de son épouse était maréchal du duché de Bar. Lui-même est le beau-frère de Louis de Beauvau, qui non seulement est sénéchal de Provence, mais se trouve être un très proche collaborateur de la reine Yolande, la reine des quatre royaumes, la belle-mère du roi Charles VII, la mère de la reine Marie. Et donc on est vraiment dans l'entourage de Yolande et de la maison d'Anjou. Alors, qu'est-ce qui se dit lors de cette première entrevue? Le seul témoignage qu'on en ait, il faut aller le chercher chez Bertrand de Poulengy, qui est un des lieutenants de Baudricourt, et qui nous dit ceci. Elle lui disait qu'elle était venue vers lui de la part de son seigneur pour demander au dauphin qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse pas guerre à ses ennemis, car le seigneur lui donnerait du secours avant la mi-carême. Jeanne disait que le royaume n'appartenait pas au dauphin mais à son seigneur, et que son seigneur voulait que le dauphin fût fait roi et qu'il lui remît son royaume en commande, disant que malgré les ennemis du dauphin, il serait fait roi et qu'elle-même le conduirait pour le faire sacrer. Robert lui demanda qui était son seigneur, et elle répondit « Le roi du ciel ». Ça lui paraît évident, vous savez qu'il y a chez Jeanne cette sorte d'évidence très forte, très lumineuse, et qui rend le personnage tellement attachant et tellement convaincant, bien sûr. Baudricourt se moque complètement d'elle, hein. Il rit, il la renvoie chez son père, d'ailleurs il dit à Durand Lazare de la ramener avec une bonne paire de gifles, vous voyez un peu. D'ailleurs le père lui-même va très mal la recevoir quand elle revient, et il menace de la noyer. Vous voyez que sa première excursion à Vaucouleurs n'a pas été un succès. Et bien pourtant, Jeanne ne se laisse pas démonter par cet échec, elle décide de repartir à Vaucouleurs. Alors, il faut vous dire qu'entre-temps, il y a eu cette attaque des Anglo-Bourguignons contre Don Rémy, la ville a été mise à sac, elle-même avec sa famille a dû se réfugier à Neuchâteau. Et l'année suivante, la femme de Durand Lazare, ça tombe bien, est sur le point d'accoucher. Et elle a besoin d'une jeune fille qui vienne aider un peu aux travaux de la maison, vous voyez donc. On va voir Jeanne aller s'installer 10 semaines à Buret. Vous imaginez, 10 semaines, la tentation est forte. Depuis les hauteurs de Buret, on aperçoit Vaucouleurs, c'est là, c'est juste à côté. Elle va finalement y retourner, elle prend pension chez une dénommée Catherine Leroyer, qui témoignera au procès en réhabilitation, c'est la femme d'un maréchal Ferrand. Elle va faire plusieurs séjours d'une durée de 3 semaines en tout. Et là, il y a un des lieutenants de Baudricourt qui s'appelle Jean de Novelompont qui raconte l'avoir rencontrée dans Vaucouleurs, toujours vêtue de simples vêtements rouges. Pour l'instant, elle n'a rien, mais alors vraiment rien, d'une chevaleresse.
Un extrait de la bande originale du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, sorti en 1999, une musique signée Éric Serra. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Jeanne d'Arc, future chevaleresse.
Ça commence à jaser dans le village, vous imaginez bien. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? C'est une sorcière, disent certains. Alors, un jour, alors qu'elle est en train de faire le ménage chez le Royer, on voit Robert de Baudricourt, donc le capitaine en personne, c'est un personnage important du petit secteur, là. On le voit arriver chez la Catherine Leroyer et demander à Jeanne d'approcher, d'abord de se retirer, pardon, s'il y a maléfice, ou de s'approcher si elle est pure. Donc, en fait, c'est une forme d'exorcisme un peu rapide. Et bien sûr, Jeanne s'approche, elle tombe à genoux au pied du capitaine. Ça ne semble pas suffire pour autant. Henri Leroyer, l'époux de Catherine, chez qui donc elle est hébergée, raconte Elle s'impatientait, le temps lui pesait comme à une femme qui va être mère. Je trouve que cette image est très bonne et très belle parce que c'est exactement ça. Elle veut accoucher de quelque chose, cette Jeanne. Alors en attendant, on la voit beaucoup prier la Vierge. Elle se rend à la chapelle accolée au château, sur le sommet de la colline qui domine Vaucouleurs. Elle assiste constamment à la messe, elle va prier dans la crypte. Et puis un jour, Baudricourt va céder. Sans qu'on sache pourquoi, même si moi j'ai ma petite idée, les auditeurs d'Europe 1 le savent bien, j'ai eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois. En tout cas, Baudricourt, je rappelle, c'est le seul indice que je donnerai, hein, c'est qu'il est membre, enfin qu'en membre, il est affilié à la maison d'Anjou et d'un seul coup il change d'avis. Il vient la voir. Baudricourt devait disposer d'autres garanties pour qu'il acceptât d'accéder au désir de Jeanne, nous dit Michel Lamy. Il fallait non seulement qu'il fût convaincu qu'elle était capable d'être une guerrière et qu'elle n'avait rien d'une frêle bergère, mais il fallait aussi qu'il sût par avance qu'elle serait bien reçue à la cour. Bref, il fallait qu'il fût couvert. Eh bien, il faut croire qu'il l'a été couvert, puisque quelques semaines plus tard, Baudricourt envoie Jeanne à René d'Anjou, comme par hasard. Elle est munie d'un sauf-conduit pour traverser les états du duc de Lorraine, et elle se rend donc où se trouve à l'époque le duc de Bar, René d'Anjou, qui est le fils de Yolande d'Aragon, hein, le fils de la belle-mère du roi. Elle se rend à Nancy. Elle fait quand même un petit détour pour faire un pèlerinage à Saint-Nicolas-du-Port, qui est un sanctuaire très fréquenté au sud-est de Nancy. Elle est toujours accompagnée du brave Durand, hein, qui, entre parenthèses, doit quand même être assez éblouie par elle pour la suivre dans toute cette aventure. À Nancy, elle va donc être reçue par le duc de Lorraine, très très haut personnage, le duc Charles II, qui a éprouvé le désir de la voir. Il faut vous dire qu'il est très malade et qu'on a dit que Jeanne avait sans doute des talents de guérisseuse. Alors ça, c'est la version officielle. C'est ce que nous disent des historiens parmi les plus irréprochables. Je ne citerai pas de nom, mais on nous dit que c'est parce qu'elle était guérisseuse qu'elle est à la cour de Charles II. Sauf que jamais, nulle part, dans aucun témoignage, à aucun endroit, Jeanne n'a prétendu avoir le moindre pouvoir de guérir quiconque. Et d'ailleurs, elle ne guérit pas du tout le pauvre Charles de Lorraine. Elle est d'ailleurs bien désagréable avec lui. Elle lui reproche sa liaison avec Alison Dumay, qui est une fille de revendeuse de légumes à Nancy. Évidemment, ça fait un peu tâche, et elle lui dit que s'il ne met pas fin à cette liaison, sa santé ne s'améliorera pas. On ne peut pas dire que ce soit manifesté là de particuliers talents de guérisseuse. Certains ont prétendu d'ailleurs que si Jeanne s'autorisait un tel aplomb en présence du duc de Lorraine, c'est qu'elle était elle-même de sang royal. Il y a toute une thèse qui a été échafaudée là-dessus au XIXe siècle. On disait qu'elle était la fille peut-être de la reine Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans, etc. Bon, moi je ne crois pas du tout à cette thèse, pour tout vous dire, mais c'est une thèse qui a circulé et qui est, encore une fois, soutenue par le fait que Jeanne ne se comporte pas du tout comme la petite paysanne, fille du doyen Don Rémy, qu'on pourrait imaginer ou attendre. Elle est incroyable. Elle a une certitude, un rayonnement absolument incroyable. Elle rencontre René d'Anjou à plusieurs occasions. Elle lui demande, bien entendu, de la conduire jusqu'au dauphin. Le duc va refuser, mais il lui donne 4 francs, ce qui est une somme rondelette à l'époque, et un cheval noir. Nancy commence à bruisser du passage de cette Jeanne, et on se demande qui elle est. Or, Jeanne, qui monte, vous l'aurez compris, à cheval quasiment comme un guerrier, hein, c'est un destrier qu'on lui a donné quand même, hein, ce cheval noir, qui appartenait aux écuries du duc de Lorraine. Le duc, nous dit la chronique de Lorraine, texte quasiment d'époque, le duc lui donna un harnais et un cheval et la fit armer. Elle était légère, on amena le cheval et des meilleurs, tout scellé et bridé. En présence de tous, sans mettre pied en l'étrier, dedans la selle se rua. Donc elle monta très facilement. On lui donna une lance, elle vint en la place du château, elle accourut. C'est-à-dire qu'on voit Jeanne briser des lances, hein, quand même. Pour parler avec notre langue d'aujourd'hui, elle participe à un tournoi, hein, puisque... On lui donna une lance, elle vint en la place du château, elle accourut. Jamais homme d'armes mieux ne courut, et toute noblesse ébahie estoie, nous dit-on. Alors, toute la noblesse était ébahie. C'est la chronique de Lorraine qui parle, et il faut bien être conscient que cette chronique est rédigée après l'extraordinaire épopée joannique, l'épopée de Jeanne d'Arc. Mais quand même, c'est un peu étonnant cette histoire. Et du reste, Thibaut d'Armagnac, chevalier bailli de Chartres, nous dit « Pour conduire et mener les armées et engager la guerre, pour ordonner l'armée pour la bataille et motiver les soldats, elle se comportait comme le plus expérimenté des capitaines du monde entier. » Vous voyez bien qu'on est là en présence d'une chevaleresse, si je puis dire. « Quelqu'un qui aurait été éduqué pour la conduite de la guerre depuis sa naissance. » Ah, alors vous imaginez, voilà qui apporte de l'eau au moulin de ceux dont je parlais tout à l'heure, bien sûr. « Chacun s'émerveillait qu'elle agisse aussi sagement et avec la clairvoyance dans la conduite de la guerre, nous dit le duc d'Alençon, comme si elle-même était un capitaine qui avait 20 ou 30 années d'expérience, et en particulier dans la mise en place de l'artillerie, où elle excellait particulièrement. » Ça, c'est quand même étrange. Vous avouerez qu'il y a quand même un grand nombre de mystères autour de cette Jeanne qui rompt des lances et qui organise des batteries d'artillerie, alors qu'elle est censée être une petite paysanne des marges de Lorraine. Bon. Alors, quand même, pour vous donner une idée, une lance de joute, ça mesure 12 pieds, c'est-à-dire 3, presque 4 mètres, disons. Et pour jouter, il fallait lancer le cheval au galop en tenant les rênes d'une seule main, évidemment, puisqu'on tient la lance de l'autre. On ne commande en fait la monture qu'avec les genoux, voire les éperons. Ça demandait une très très grande pratique du cheval. C'est toujours le cas, ça, d'ailleurs. Hein. Et au moment de la rencontre, fallait abaisser cette espèce d'engin de 4 mètres de long, le pointer sur l'adversaire. Enfin, vous imaginez ce que c'était, c'est quand même pas du tout une bagatelle. Et on ne donne pas une lance à n'importe qui, puisque la lance fait partie des 8 symboles de noblesse. Donc si vous portez une lance en lice, normalement, c'est que vous appartenez à la noblesse, que vous avez au moins 8 quartiers de noblesse. Bref, on ne va pas entrer dans tous ces détails, sachons tout de même que cette présence de Jeanne à un tournoi de chevalerie a été sans doute à l'origine de tout l'imaginaire guerrier autour de Jeanne. Plus encore que celle qui conduit l'armée, elle est celle qui aurait jouté dans la liste de Nancy.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et tout au long de l'émission, vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Nous envoyer vos messages et vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH via la page Facebook de l'émission et par mail europe1.fr. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans la suite d'Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, vous continuerez d'évoquer la guerrière Jeanne d'Arc.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Des femmes impliquées en chevalerie, Franck Ferrand, vous évoquez l'une d'elles, une grande figure guerrière, Jeanne d'Arc.
Alors Jeanne d'Arc va rentrer de Nancy avec son beau cheval noir et 4 francs en poche, si je puis dire, les 4 francs du duc de Lorraine. Elle arrive chez Baudricourt et là, chose tout à fait extraordinaire, décidément, vous avouerez qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences dans cette histoire. Là, elle tombe sur un certain Colet de Vienne qui appartient aux écuries de Yolande d'Aragon, toujours cette maison d'Anjou. Il porte d'ailleurs la livrée d'Anjou au Colet de Vienne. Il vient directement de la cour et que va-t-il faire? Il va repartir avec Jeanne dans ses bagages, si je puis dire, ou en tout cas à ses trousses. Baudricourt a levé l'interdit et le premier dimanche de carême, le dimanche des Bures, on est le 13 février 1429, donc le jour même de la bataille du Rouvray, qui est connue sous le nom de Journée des Harengs parce que le convoi anglais qui avait été attaqué par les Français transportait du poisson, transportait des harengs. Bref, Jeanne est partie. Baudricourt lui donne l'épée. Alors là, on est vraiment dans l'arme chevaleresque par excellence. Et il lui dit « Allez donc Jeanne, allez et advienne que pourra ». Comme une sorte de, vous voyez, il lui donne sa bénédiction en quelque sorte. Alors il y a toute une petite escorte, hein, deux des vassaux, plusieurs serviteurs de Baudricourt, et puis donc ce Colet de Vienne qui connaît par cœur les zones de combat, parce qu'il faut vous dire qu'on est en pleine guerre civile, disons, enfin une pleine guerre à cette époque, et qu'il y a un très très long chemin à parcourir entre Vaucouleurs, vous imaginez, là-bas dans l'est de l'actuelle France, et puis Chinon, bien sûr, Chinon dans le Val-de-Loire. Et donc c'est extraordinaire d'arriver à déjouer tous les obstacles, à passer tous les barrages infranchissables. Eh bien, ils vont y arriver grâce à Colet de Vienne. Tout ça ressemble quand même bien à une mission assez pilotée, quand même. Alors, Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jeanne s'habille en homme. Elle a la fameuse coupe dite à la Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et nous saluons Mireille Mathieu au passage, bien entendu. Jeanne a un pourpoint ou un justaucorps noir, des chausses attachées à ce justaucorps par des aiguillettes, exactement comme un homme, une braguette, hein, si j'ose dire, une tunique ou robe courte de gros gris noir, un chapeau noir, des housseaux armés d'éperons, enveloppant la chaussure. Bref, elle est habillée, vêtue véritablement comme un homme. Et chose troublante dans cette description, vous avez remarqué peut-être que Jeanne dispose du privilège de porter des éperons, ce qui jusqu'alors était exclusivement réservé non seulement aux nobles, bien entendu, mais aux hommes nobles. On n'imagine pas une femme avec des éperons. Alors si, bien sûr, va nous dire Sophie Brouquet dans un instant, puisqu'elle n'est pas la seule à avoir eu ce privilège. Mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Les vêtements ont été, dit-on, fournis par les habitants de Vaucouleurs qui se sont cotisés. Il y a donc bien un mouvement qui est en train de naître. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis. On peut dire que cette Jeanne possède un charisme étonnant. Elle est portée par la situation, certes, mais aussi, semble-t-il, par les habitants. Durand Laxar dit « Moi-même et Jacques Alain de Vaucouleurs lui achetâmes un cheval pour le prix de 12 francs à nos propres frais. Pourtant, par la suite, le seigneur Robert de Baudricourt nous les fit rembourser. Nos Vlompons avance de l'argent pour le voyage. Il sera remboursé par le trésor royal le 21 avril 1429. Je pose mes petites balises en attendant m'envoyer. Et cela fait, Jean de Metz, c'est-à-dire nos Vlompons, Bertrand de Poulangy, Colette Vienne évidemment, et Richard Larcher, avec les deux valets de Jean de Metz et de Bertrand, conduisirent Jeanne au lieu où était le dauphin, nous dit Durand Laxar. Et Poulangy précise « Moi, Bertrand et Jean de Metz, nous fîmes tant avec l'aide des autres gens de Vaucouleurs qu'elle laissa ses vêtements de femme de couleur rouge et que nous lui fîmes préparer une tunique et des vêtements d'homme, des éperons, des housseaux, une épée et tout le reste, ainsi qu'un cheval. Et alors, avec Jeanne et avec Julien, mon serviteur, Jean de Haunecourt, serviteur de Jean de Metz, Colette Vienne et Richard Larcher, nous nous mîmes en chemin pour aller trouver le dauphin. » Là, le reste appartient, si je puis dire, aussi bien à la légende dorée qu'à la grande histoire, hein, puisqu'à partir de l'arrivée de Jeanne à Chinon, le 23 février 1429, je n'ai plus rien à vous apprendre, si je puis dire. Mais vous avouerez que tous ces préparatifs et tout ce préambule à l'incroyable épopée de Jeanne d'Arc nous amène sur un terrain qui, qu'on le veuille ou non, est bien celui non seulement de la guerre, mais celui de la chevalerie. C'est dans une légende chevaleresque que se forge le mythe, si je puis dire, de Jeanne d'Arc, et le personnage tel qu'il apparaîtra, tel qu'il conduira l'host du roi de France, tel qu'il répondra au grand docteur de la Sorbonne réuni à Poitiers, le personnage est bien une sorte de, j'allais dire, de chevalier en jupon, même pas, puisque de toute façon, elle porte une tenue d'homme. Bonjour Sophie Cassagne-Brouquet, merci d'être avec nous. Nous allons dans un instant revenir sur le cas de Jeanne d'Arc et puis nous allons découvrir bien d'autres chevaleresses. Et ça, je pense que ça surprendra quelques-uns de nos auditeurs.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Des guerrières porteurs d'armes et l'une d'elles, Jeanne d'Arc, sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la professeure d'histoire médiévale à l'université de Toulouse, Sophie Cassagne-Brouquet, auteur du livre « Chevaleresse, une chevalerie au féminin » paru aux éditions Perrin.
Alors réglons, si vous le voulez bien Sophie Brouquet, réglons tout de suite le cas de Jeanne d'Arc qui est un petit peu, qui est tellement lumineuse qu'elle aurait tendance à jeter dans l'ombre toutes les autres. Elle est quelque part, elle est une chevaleresse, comment dit-on, une chevaleresse ou une chevalière d'abord ?
Les deux. Les deux sont utilisés à l'époque et tout à fait couramment, c'est pas du tout un terme forgé. Plus tard, on va au XVIIIe siècle s'étonner, qu'est-ce que c'était dans un dictionnaire de la Furtière. Je connais ce nom chevaleresse, mais je ne vois pas du tout ce que c'est.
Ça montre le progrès du féminisme dans la société, ça, évidemment. C'est-à-dire que plus on avance dans les siècles et moins cette réalité que vous vous efforcez de mettre en évidence sera reconnue. Mais nous n'en sommes pas tout à fait là. Alors, d'où vient que Jeanne d'Arc puisse monter si bien à cheval, par exemple ?
Alors, là, je n'en sais...
Votre silence est éloquent.
Je n'en sais strictement rien. Autant pour les femmes de la noblesse, ça s'explique tout à fait, évidemment.
Bien sûr, oui.
Pour Jeanne d'Arc, c'est assez surprenant.
Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, elle s'habille en homme.
Oui.
Alors, si l'on en croit Poulangy, c'est lui qui lui aurait conseillé de le faire.
Alors, À l'époque, ça, c'est ce qui va, cet habit d'homme, c'est ce qui va l'amener à la condamnation. Elle est condamnée pour ça. Hein,
pour relapse, parce qu'elle avait remis ses habits d'homme.
Et elle est condamnée pour avoir porté des habits d'homme. Ce qui est complètement d'ailleurs un prétexte, hein, parce qu'on est allé chercher une phrase dans le
Deutéronome,
dans la Bible. Enfin, à l'époque, la Bible interdit évidemment, l'Église interdit aux femmes de s'habiller en homme, sauf en cas de guerre et d'extrême péril. Donc ça, là, elle est tout à fait justifiée évidemment pour ce voyage qui est presque miraculeux. C'est son premier miracle d'avoir réussi à arriver à Chinon.
Alors, elle a l'épée de Sainte-Catherine de Fierbois.
Oui, ça aussi, c'est tout à fait inexplicable. Hein. Elle dit que, voilà, elle a une vision, on lui disait d'aller chercher, parce qu'on lui avait déjà donné une épée, mais le dauphin va lui donner une épée, puis elle a dit non, non, moi je veux une épée qui est enterrée dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois en Touraine, alors qu'elle est de l'est de la France, et on va fouiller, on va trouver une épée. D'un ancien croisé, probablement enterré là. Donc ça, c'est, voilà, ça c'est inexplicable, mais bon, bien, chez les mystiques, il y a beaucoup de choses inexplicables aussi.
Et tout particulièrement chez Jeanne d'Arc, il faut quand même le reconnaître. Hein.
Il y a beaucoup de femmes mystiques à l'époque.
Oui, c'est vrai,
bon, c'est Catherine de Sienne, elle aussi, elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense au pape et au roi de l'époque.
Alors, elle va un jour, bientôt, conduire l'armée du roi de France, l'os royal. Elle va conduire cette armée. Alors, là encore, les historiens, mais c'est un peu irritant même, parce que on se rend compte qu'un certain nombre de nos grands historiens, y compris dans une période très récente, hésitent un peu à reconnaître cette dimension de chef de guerre. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, enfin, elle était quand même très entourée, très conseillée.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, mais comme elle s'oppose systématiquement aux décisions de Dunois, qui est présentée par certains historiens comme le vrai chef, et qu'elle l'emporte.
Et par d'autres comme son demi-frère, mais enfin nous n'irons pas jusque-là.
Et comme elle l'emporte à Orléans, c'est quand même elle qui a décidé la prise des Tournelles et le principal fait de guerre du siège d'Orléans. Dunois ne voulait absolument pas.
Alors la reine Yolande lui a fait faire une belle armure qui a été faite par des ferronniers de Tours. Qui d'ailleurs, alors il semblerait d'ailleurs qu'il faille 14 semaines pour faire une armure à l'époque. Alors on ne sait pas trop comment ça a pu être possible. Enfin bon, tout ça est un peu mystérieux. Toujours est-il que c'est dans cette armure qu'elle assiste au sacre de Charles VII dans la cathédrale de Reims. Donc là, elle est bien comme un chevalier.
Ah oui, mais à partir du moment où elle quitte vos couleurs, elle est toujours habillée en homme d'armes. Elle n'est jamais habillée en femme jusqu'à sa captivité après à Compiègne.
Elle porte les éperons, etc. Oui, oui. Alors elle va être capturée à Compiègne par les hommes de Jean de Luxembourg dans une espèce de traquenard qui ressemble à un coup monté. Bon, ça paraît évident. Bref, elle est désarçonnée, on la met en prison, on l'oblige à quitter ses vêtements d'homme pour des vêtements de femme. Elle va être... Alors, il faut quand même dire qu'elle n'a été vendue aux Anglais que parce que la cour de France n'a pas voulu racheter sa rançon, entre parenthèses, c'est quand même extravagant.
Jean Luxembourg était très hésitant, hein, il est même revenu après l'avoir dans la prison à Rouen pour s'excuser, donc ce qui montre quand même que les choses n'étaient pas si simples que ça, et c'est vrai qu'il y avait il y avait deux clans à la cour de France. Il y avait le clan des Angevins, et puis il y avait le clan du chancelier La Trémouille, qui lui voulait la paix. Donc évidemment, avec Jeanne d'Arc, quand on lit les lettres de Jeanne d'Arc qu'elle envoie à la ville de Troyes, par exemple, pour leur dire de céder...
Mais c'est pas tellement la paix.
Ah non.
On est dans quelque chose de très guerrier. Et
très
ça,
agressif.
C'est ce qui fait le cœur même de votre ouvrage. C'est la dimension guerrière d'un certain nombre de femmes réelles ou mythiques, nous allons voir, il y a les deux, au Moyen-Âge. Donc la femme n'est pas seulement un être de paix. On a toujours l'image de ces femmes qui viennent de loin avec leur grand hennequin, là, assister à des tournois de chevalerie et qui s'émeuvent et qui font de la broderie dans leur donjon. Mais vous nous dites que ça n'est pas ça la femme du Moyen-Âge.
Ça dépend des périodes, mais on va dire qu'en période de guerre, en particulier la guerre de Cent Ans, on va retrouver ça aussi au moment des croisades, il y a une idée que la famille compte avant tout et que si l'homme est prisonnier, mort par exemple à Azincourt, bah la femme doit s'y mettre. Voilà.
Ça, c'est ce que dit Catherine de Sienne. Hein,
oui,
carrément.
Christine de Pisan aussi, elle le dit, voilà, non, c'est normal. Et donc, l'arrivée de Jeanne d'Arc n'est pas du tout surprenante. Le fait que ce soit une femme, le fait que ce soit une femme du peuple, ça c'est un peu plus complexe. Mais il y avait eu une prophétie qui disait qu'il y avait une Pucelle qui devait arriver libérer la France. Donc, bon. Le fait que ce soit une femme, c'est tout à fait, on le voit aussi bien, j'ai donné des exemples en Espagne, en Écosse, en Allemagne, en France, en Italie.
Des personnages que je ne connaissais pas, pour tout vous dire, c'est passionnant. En France, il y a une Jeanne la Flamme.
Oui, Jeanne la Flamme, que les Bretons connaissent très bien, oui. Hein, qui est célébrée par plusieurs chanteurs bretons, comme Alan Stivell. Dans la guerre de Cent Ans, dans ce vaste conflit qu'est la guerre de Cent Ans, où il y a plein de petits conflits, il y a un conflit pour la succession du duché de Bretagne, duc meurt sans héritier. Enfin, il y a deux héritiers assez lointains. Évidemment, les rois en guerre de France et d'Angleterre vont s'y mettre. Chacun va pousser son candidat. Et donc, le candidat du roi d'Angleterre, Jean de Montfort, a épousé une Jeanne, Jeanne de Montfort. Et Jean de Montfort va être fait prisonnier. Et donc, c'est elle qui va relever la guerre. Et donc, quand la ville d'Annebon est assiégée par les Français, voilà. Elle va sortir donc avec ses dames de compagnie, ses cavalières.
Elle va faire une sortie. Elles sont toutes à cheval. Ouais,
elle fait une
sortie. Sont des Amazones en fait.
Voilà, elle fait une sortie pour aller enflammer les tentes des Français qui sont allés assiéger un autre côté des remparts. Et d'où son nom de Jeanne la Flamme. Et c'est un personnage qui a eu des chansons celtiques, enfin traditionnelles, puisque c'est le parti qui était le parti opposé au roi de France. Vous voyez ce que je veux dire, en Bretagne. Donc
ouais,
c'était
voilà. Bien sûr.
Et c'est un personnage qui a réellement existé. Bon, malheureusement, pour elle, après, elle a été elle-même obligée de fuir en Angleterre. Elle est morte folle. Voilà, donc ça, c'est une histoire assez triste.
Vous parliez de l'Écosse. Alors là, c'est Black Agnès.
Oui, il y a des personnages là.
Alors ça fait, on a l'impression d'être dans Game of Thrones d'un seul coup. Qui c'est cette Black Agnès?
Alors Black Agnès, c'est une comtesse écossaise, donc qui doit elle faire face aux Anglais. Là, on est plutôt dans la guerre de siège. Et alors, elle est assiégée donc par un grand seigneur anglais. Et il y a une espèce, c'est à la fois de la guerre et à la fois de la courtoisie, parce que alors on l'appelle Black Agnès parce qu'elle a les cheveux noirs, hein, ce qui en Écosse n'est pas si près.
Non, parce qu'on est généralement blond ou roux en Écosse.
Et donc, c'est une provocatrice parce que quand, par exemple, quand le seigneur envoie l'armée anglaise envoie des boulets, elle envoie une de ses servantes essuyer les passages de boulets avec un petit mouchoir. Et donc, il y a des joutes verbales, visiblement, entre elles. Et elle lui envoie à un moment, elle prend son arc, elle envoie une flèche donc sur son adversaire anglais qui dit « Ah, voilà une petite aiguille que m'envoie Madame, ma Black Agnès ». Et donc elle aussi a eu des chansons qui sont encore chantées, des chansons tout à fait remarquables. Là aussi, voilà, le mari est en prison et
alors voilà, ce sont un peu les circonstances qui amènent ces femmes à devoir se battre. On avait parlé d'ailleurs de Jeanne de Belleville, cette corsaire qui, là encore, pour des raisons matrimoniales, disons, se trouve amenée peu à peu à prendre elle-même les armes, à prendre elle-même la tête d'une compagnie et à aller mener la guerre, en l'occurrence sur mer. Alors là, c'est encore plus extraordinaire, oui. Bien entendu. Il faudrait dire un mot peut-être de Richard de Saluces également.
Ah oui. Alors Richard, alors là on est dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, et là c'est la même chose, le mari de Richard est fait prisonnier la guerre est contre le duc de Milan, et elle pareil, elle forme une armée avec ses dames de compagnie, elle va attaquer le duc de Milan, mais ce qui est amusant c'est que son petit-fils va écrire un roman de chevalerie magnifique qui s'appelle Le Chevalier Errant, en français parce qu'on est dans une zone à l'époque où l'on parle encore le français, et alors dans ce roman qui est un roman allégorique, la gloire arrive et elle dit au chevalier, elle lui dit « Rappelle-toi ta grand-mère qui menait les armées, c'est pas le grand-père, rappelle-toi ta grand-mère, essaye d'avoir la gloire qu'a eu ta grand-mère. » Et c'est pas la seule fois, puisqu'on retrouve la même chose en Flandre, hein, dans des chartes, où on dit « Rappelez-vous votre mère qui régnait à cette époque-là et qui dirigeait les armées. »
Ça fait penser à une toute autre époque, à la merveilleuse kermesse héroïque de Jacques Feder, où les femmes fatiguées de la veulerie et de la couardise des hommes finissent par décider de prendre les choses en main. Il y a un petit peu de ça dans ce que vous nous racontez.
Les frondeuses ont été beaucoup inspirées par ces personnages-là. Elles les connaissaient.
Alors, nous allons venir là maintenant à des personnages qui sont peut-être un peu moins historiques, mais qui ont profondément marqué l'imaginaire médiéval, parce que nous parlons des chevalières, mais le terme qui fait immédiatement songer aux femmes en armes, c'est celui de neuf preuses. Qui étaient-elles, ces neuf preuses? Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Europe 1, un extrait de la bande originale du film La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier, une musique signée Philippe Sard.
Là, on est dans les frondeuses, hein, pour le coup.
Tout à fait. Et les grandes chevaleresses sont au cœur de l'histoire aujourd'hui. Votre invité, Franck Ferrand, la professeure d'histoire médiévale à l'université de Toulouse, Sophie Cassagne-Broquet, auteur du livre Chevaleresse, une chevalerie au féminin chez Perrin.
Je vais jouer les machos pendant quelques instants, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que si ces femmes prennent les armes, si on voit naître des chevaleresses d'une certaine manière, comme par hasard, au moment extrêmement troublé de la guerre de Cent Ans, c'est parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement et que les hommes ne suffisent plus à la tâche, d'une certaine manière, Sophie Brouquet.
Alors oui, d'une certaine manière, c'est vrai que, comme pendant toutes les périodes de guerre, hein, la guerre de Cent Ans est une période de guerre tellement longue en plus, que les femmes, de tous les points de vue, hein, ont progressé, si l'on peut dire, ouverture
oui,
des métiers,
imposées,
etc.
Oui, oui.
Mais on retrouve quand même des chevaleresses dès le XIe siècle, dans toute la féodalité, dans la mesure où en fait... La notion d'État reste encore très faible et donc on défend son bien patrimonial, même si c'est
un
comté,
féodal,
voilà.
Oui.
Et donc que ce soit l'homme ou la femme, ça n'a pas d'importance.
S'il n'y a plus d'homme pour le faire, eh bien c'est la femme qui,
voilà.
qui d'ailleurs souvent protège ainsi les intérêts de ses enfants
oui.
mineurs.
Hein, oui,
il y a
oui,
cette
ça
dimension-là.
Peut être aussi une femme, une veuve, oui bien sûr.
On a vu souvent, mais ça ce sera plus tard, dans le cadre des grandes charges de la cour de France, on a vu des femmes exercer des charges exclusivement masculines, simplement en survivance, c'est-à-dire en attendant que leurs enfants puissent être en âge d'hériter la charge. Ça a pu exister. Alors, ces femmes, ces chevaleresses, on les retrouve dans un certain nombre d'ordres de chevalerie. Parce que qui dit chevalier dit ordre. Qui les adoube, qui les reçoit?
Alors, il y a deux types d'ordres. Il y a les ordres militaires. Alors ça, c'était une de mes grandes surprises en travaillant sur ce sujet, de voir que les ordres militaires, c'est-à-dire les ordres de moines, soldats, accueillent des femmes. Les templiers...
Par exemple.
les chevaliers teutoniques.
Ça, c'est encore moins attendu.
Et ils les accueillent.
C'est-à-dire
vraiment.
Qu'il y a des femmes chez les chevaliers teutoniques.
Oui. Et les hospitaliers. Beaucoup d'ordres aussi en Espagne, en Italie. Même un ordre pontifical, l'ordre du Saint-Sépulcre, accepte les femmes. Et alors, par contre, là, dans ces ordres-là, elles ne sont pas guerrières.
Mm-hmm.
Elles ne sont pas guerrières.
Elles ne sont pas armées.
Elles ne sont pas armées. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi ces femmes, alors qu'elles pouvaient aller chez les Clunisiens, les Cisterciens, les Dominicains, les Franciscains, elles avaient l'avoir du choix. Elles veulent aller là, dans ces ordres-là, on les voit, hein, elles sont volontaires, ce sont des femmes qui sont soit mariées, qui se séparent de leur mari et qui vont eux aussi devenir frères, ou alors elles sont veuves ou avec des enfants et elles entrent dans ces ordres. À tel point d'ailleurs, c'est une anecdote que j'avais trouvée assez amusante, au moment du procès des Templiers, on va accuser les Templiers de tous les maux et notamment d'être sodomites. Et il y a un Templier qui dit dans son témoignage, mais non, puisqu'on avait des femmes dans nos couvents.
Voilà, ça s'appelle prêcher le faux pour
et,
savoir le vrai.
Chez le chevalier teutonique, donc il y a des femmes qu'on appelle des sœurs, hein, qui ne combattent pas, mais par contre, il y a dans la croisade contre les Prussiens et les Baltes qui sont à l'époque païens,
bien sûr,
il y a
oui.
des femmes qui combattent dans les chroniques, on les voit avec les aux côtés des chevaliers teutoniques, des femmes du peuple là. Bon, donc ça c'est
donc ils sont parmi les fantassins plutôt alors,
oui,
hein, c'est
oui,
ça.
Oui. Et donc ça c'est d'une part et de l'autre part après donc aux deux derniers siècles du Moyen-Âge, il y a donc des ordres de chevalerie qui sont fondés par les rois ou les grands seigneurs dont certains ne vont pas admettre de femmes. C'est notamment le cas en France, il faut le dire. Et d'autres vont admettre des femmes, et en particulier le premier, c'est l'ordre de la Jarretière, fondé par Édouard III, le grand vainqueur de Crécy, qui, peu après Crécy, va fonder un ordre ouvert aux femmes. D'abord sa femme, ses filles, puis ensuite d'autres dames de la noblesse, et qui donc, encore aujourd'hui, existe. Avec, comme chef d'ordre, la reine Élisabeth.
Oui, d'ailleurs, tout simplement. Ben oui, c'est vrai. Donc, des femmes qui exercent là de véritables responsabilités dans des ordres de chevalerie. Mmh. Vous avez parlé de croisades très rapidement. Est-ce qu'on a vu des femmes dans les croisades? Alors, on
oui.
pense à Aliénor d'Aquitaine, évidemment, qui accompagne Louis VII, mais
oui,
elle ne combat pas.
Alors, il y a eu des femmes du peuple. Hein, qui ont combattu notamment pour la première croisade. Il y a de nombreux témoignages au siège.
Parce que là, c'est un grand mouvement populaire au
siège
départ,
de Jérusalem. Ouais. Et puis alors, beaucoup de femmes à la deuxième et à la troisième croisade. Et là, alors, des débats entre les historiens. Les chroniqueurs chrétiens disent qu'il n'y a pas de femmes, parce que pour eux, ça serait enlever la sainteté au combat. Les chroniqueurs musulmans, et qui sont des très proches de Saladin et qui vont sur les champs de bataille, nous disent, je pense à deux qui s'appellent Imad al-Din et Sal al-Din, disent que quand il y avait des blessés sur le champ de bataille, on a enlevé des casques, on a enlevé des armures, on a trouvé des femmes.
Ah oui.
Qui gémissait. Il y a plusieurs chroniqueurs qui le disent. Et puis, il y a aussi, donc, ils nous parlent de vieilles femmes qui égorgent les mourants,
qui pillent
les cadavres, et des femmes qui tirent à l'arc aussi lors du siège d'Acre. Oui, oui.
Ah, mais tout ça est assez incroyable quand même. Ouais. Il a fallu que vous alliez glaner dans tous ces témoignages, dans toutes ces chroniques anciennes, des phrases qui sont généralement comme ça au détour du texte. Hein. On n'insiste jamais sur le sujet.
En France.
En France. Ah oui, alors, dans quel pays est-ce qu'on aurait tendance à y insister davantage ?
Dans les pays anglo-saxons, ça a été plus mis en avant.
Ça, c'est intéressant. Hein. Ouais. Philippe nous fait remarquer via Facebook que c'est exactement à cette époque, dans cette période de la guerre de 100 ans, qu'au jeu d'échecs, la dame devient une pièce extrêmement puissante, ce qu'elle n'était pas auparavant, nous dit-il. Mmh. Il y a sans doute un lien. Il y a toute une symbolique de la femme qui devient puissante, en quelque sorte. Mmh. C'est ce que décrit votre livre. Et c'est là qu'il faut parler des fameuses neuf preuses. Qui sont-elles ?
Alors, il faut savoir d'abord que les neuf preuses succèdent aux neuf preux, qui étaient donc neuf guerriers héroïques qu'on avait choisis dans l'Antiquité. Et alors, sans aucune raison, puisque finalement ces neuf guerriers héroïques pouvaient très bien convenir, on va vouloir faire une sorte de parité avec neuf preuses. Et donc là, on le trouve donc dans un ouvrage qui commence à parler de ces neuf preuses, puis ça part très vite dans la poésie, partout. Et donc ces neuf preuses, c'est plus compliqué, parce que pour les neuf preux, on a César, on a Alexandre. Là, on va les choisir parmi les Amazones, auxquelles on va ajouter Sémiramis, reine de Babylone, dont les chroniques grecques disent qu'elle a combattu, effectivement. Différentes guerres de l'Antiquité, il y a une Thomiris qui avait tué l'empereur perse Cyrus en lui coupant la gorge et en baignant sa tête dans le sang, des vraies guerrières. Et ces neuf preuses donc vont être, comme les neuf preux, illustrées. Et notamment le duc d'Orléans va faire peindre son château de neuf preuses, va faire réaliser des grandes statues qui font plus de 3 mètres de haut sur la façade de son château où on voit les neuf preuses. Et ça devient un thème populaire, puisque en fait on fait faire des fêtes à la preuse, et notamment quand un grand personnage entre dans une ville, il est accueilli par neuf preux et neuf preuses à cheval.
Est-ce qu'il n'y a pas là tout simplement une volonté de symétrie ? Vous savez, ça fait penser à ce que Norbert Elias appelait le procès de civilisation. Il dit que lorsqu'une culture se raffine, lorsqu'on va vers la civilisation, on a tendance à vouloir établir des symétries hommes-femmes, aux héros masculins viennent se juxtaposer en quelque sorte, ou viennent se contrebalancer des héros féminins. Il y a un peu de cette idée-là, sans doute.
Oui, et puis alors on est dans quand même la chevalerie courtoise, là. C'est ce qu'on appelle la belle guerrière, l'Egregia Bellatrix, la belle guerrière. Mais ce qui est amusant, pour revenir à Jeanne d'Arc, c'est que ensuite, on va dire, tiens, il y a un dixième preux, ça va être du Guesclin. Bon, c'est logique. Et puis quelques années plus, dès que Jeanne d'Arc apparaît, on a des textes du mois de mai 1429, peu après le siège d'Orléans, on a des gens qui disent « Ah ben voilà la dixième preuse !» Avant même que le roi soit sacré, bien avant qu'elle soit condamnée.
Donc ça fait vraiment partie des références publiques et collectives.
Voilà. Et moi je pense, si vous voulez, ma thèse sur Jeanne d'Arc, c'est qu'en fait finalement, il y avait tellement d'images de ces neuf preuses absolument partout que ça n'a absolument pas surpris.
Les esprits étaient déjà formés à cette idée. Quand ils ont vu cette femme en armure à cheval, ils avaient l'habitude de les voir sur des tapisseries
Ils disent « Ah, c'est la dixième preuse ».
C'est ça.
Et Christine de Pizan dit « Ah ben non, c'est pas la dixième preuse ».
Parce que c'est moi la dixième preuse.
Non, c'est pas ça. C'est parce que les dix preuses, c'était des Amazones, des païennes, alors qu'elle, c'est une chrétienne. Elle est la seule. Mais il y a un débat. Et ce que je dis toujours à mes étudiants, vous imaginez aujourd'hui une jeune femme de 17 ans qui va au ministère des armées pour se faire contre. On lui dirait « Mais bon, allez vous soigner ». Alors que là, ils étaient depuis 30 ans, ce thème existe absolument partout en France.
Cet envoyé de Dieu envoyé et eux. C'est ça qui est assez étonnant, parce que on aurait pu imaginer un jeune homme qui se serait réclamé de Dieu. Mais là, c'est une jeune femme. C'est quand même plus extraordinaire.
À l'époque, sur 100 mystiques, il y a 90
femmes.
C'est
ça. Et oui, bien sûr. Alors, ces femmes, ces preuses participent à des tournois. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi dans les tournois, alors dans les vrais tournois, des hommes qui combattent habillés en femmes cette fois. Ça va très loin quand même. C'est-à-dire que qu'il y ait des femmes chevalières ou chevaleresses, admettons, mais que des chevaliers finissent par s'habiller en femmes pour combattre, alors expliquez-nous ça.
Alors je vais prendre un exemple d'une autobiographie qui est quand même extrêmement surprenante, qui n'est pas traduite encore en français, vraiment une autobiographie hein, du début du XIVe siècle, hein, on est dans les années 1300, c'est tôt, d'un seigneur qui s'appelle Ulrich von Liechtenstein, mais qui n'est pas du Liechtenstein, qui est autrichien, qui explique qu'en fait, pour montrer son courage, il veut se démarquer. Donc il va dire, je vais m'habiller en femme, comme ça j'aurai plus de gloire. Et donc, alors il décide de faire une tournée de tournois, qui part de Venise et va jusqu'à Innsbruck. Alors il explique comment il se fait faire des robes à Venise, une perruque avec des tresses blondes, enfin, voilà, on a tous les détails. Et ensuite il part, il va faire toute une tournée, alors il gagne tous les tournois.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il est extraordinairement doué. Hein. Ouais. À Trévise, il rompt 307 lances.
Hein, c'est lui qui le raconte.
C'est lui qui le dit. Oui, c'est vrai que personne n'est là pour le contredire.
Alors, voilà. Et puis, arrivé vraiment en Autriche, là, il a tellement de gloire que les dames de la région sont fières parce que voilà, elles remontent l'idée des femmes, etc. Donc, elles tapent à sa porte. Alors, vite, vite, il se rhabille, il met sa perruque, etc. Mais il n'a pas eu le temps de se raser. Donc, elles l'entraînent à la messe. Et là, à la messe, on fait le baiser de paix. Et là, évidemment, il y a une dame. Voilà. Et alors, il dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais non, finalement, elles lui disent, non, on est tellement contentes que vous disiez du bien des femmes pour une fois qu'on dit du bien des femmes.
C'est-à-dire que c'est plus étonnant encore. Non seulement il s'habille en femme, mais il se fait passer pour une femme.
Oui, oui.
Hein. Ça, c'est très
étonnant. Il explique, en fait, s'il combattait comme il est, bon, ben voilà, ce serait un chevalier parmi tant d'autres, tandis que là, il va être comme une Amazone. Et il appelle son voyage le Vénusfahrt, le voyage de Vénus. Il est le champion de Vénus.
Et l'ouvrage, c'est le Frauendienst, le service des dames, en quelque sorte.
Voilà, oui, oui.
Donc il y a bien, à travers tout ce que vous venez de nous raconter, c'est assez frappant, Sophie Brouquet, il y a bien une place de la femme infiniment plus éminente, plus essentielle et plus centrale que ce qu'on a bien voulu dire dans l'historiographie habituelle.
Oui, oui. Et alors, il semble, c'est comme si vous voulez, là, le sexe n'avait pas, ou le genre, comme on dit aujourd'hui, n'avait pas tellement d'importance. C'est plus, disons, la noblesse ou l'attitude noble, puisqu'on va, je prends une petite ville en Espagne, Tortosa, où les femmes ont défendu la ville parce que les hommes étaient partis combattre d'un autre côté des musulmans. Et le roi d'Aragon va anoblir toutes les femmes de la ville, créer un ordre de chevalerie pour ces femmes, et la noblesse se transmettra de mère en fille. Et donc, un jour par an, il y a une procession et les hommes doivent servir les femmes ce jour-là, en souvenir donc de leur exploit guerrier.
Et en France, à quel moment est-ce qu'on peut dire que tout ça s'arrête d'une certaine
manière ? C'est clairement Louis XIV.
Comme par hasard.
En fait, on va retrouver cette... dès qu'il y a une guerre civile, si vous voulez, pendant les guerres de la Ligue et pendant la Fronde, on va retrouver ces modèles de Preuse, des peintures de Preuse, il y en a jusqu'à Louis XIV. Et puis alors là, c'est terminé.
Oui, à partir de là, ça.
On peut dire que la dernière Preuse, c'est la grande demoiselle.
Oui,
elle est complètement, c'est son modèle absolu. Elle est complètement dedans.
La cousine de Louis XIV et qui avait fait tirer sur ses troupes depuis les tours de la Bastille. Ça, évidemment, ce sont des choses qu'on ne pardonne pas. Merci beaucoup, Sophie Cassagne-Brouquet. Chevaleresse, une chevalerie au féminin. C'est un livre tout à fait étonnant, vous l'aurez compris, qui est publié chez Perrin dans la collection Pour l'Histoire.
Au cœur de l'histoire continue dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Franck sur l'origine du genre adopté pour les noms de pays.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Franck cet après-midi. Il vous demande, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, d'où vient le choix du déterminant masculin ou féminin pour le nom des pays ?
Alors vous savez que d'abord il y a des pays qui étaient au départ des adjectifs. Ils tirent leur genre du sujet auquel ils étaient rattachés. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit la Belgique ? Parce qu'au départ c'était la Gaule-Belgique, par exemple. Bon, donc ça, l'explication est tout à fait évidente et naturelle. D'autres, pour beaucoup de pays, ils sont naturellement féminins en français. C'est comme ça. On avait tendance à prendre le nom d'un peuple, on y ajoutait IE et ça donnait le nom. Par exemple, Allemagne qui est devenue Allemagne parce qu'on l'a prononcé bizarrement, mais au départ c'est ça. Allemagne, Allemagne, Allemagne. Même chose avec Hispanie qui est devenue Espagne, Espagne. Même chose. Bon. Donc, les noms étaient féminin. Et puis, il y a des noms qui sont directement tirés d'éléments géographiques et de fleuves, par exemple. Le fleuve Congo, le fleuve Sénégal. Et donc, quand on a donné le nom de ces pays, eh bien, on s'est calé sur le genre du fleuve. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis à dire la Congouaïe ou que sais-je. Donc, on a dit le Congo, le Sénégal, etc. D'une manière générale, l'histoire coloniale a eu tendance à masculiniser les noms comme par hasard, puisque ce sont des noms qui ont été donnés au 19e et au 20e siècle, hein, comme par hasard. Donc, on dit le Nigeria, le Libéria, l'Angola, qui est un Angola, alors qu'en plus, ce sont des noms qui finissent par A. Vous avouerez que tout ça est assez étrange. Alors, il y a des cas particuliers. La République dominicaine n'est pas un nom de pays à proprement parler, puisque l'État, là, se confond avec le pays. Il n'y a pas de nom de pays. Et puis, alors, si vous entrez... Israël n'a pas de genre. C'est même, on peut dire, dans son cas, l'exception qui confirme la règle. Mais comme ça commence par une voyelle, évidemment, c'est plus facile. On élide le E ou le A. Alors, pourquoi est-ce qu'Israël elle n'a pas de genre, eh bien je vous laisse plancher sur cette grave question.